Radio Spirale. L'œuvre de Jacques Brault, riche, abondante et dense, a abordé la plupart des genres littéraires avec un souci exemplaire de justesse dans l'expression et dans le contenu, mais c'est le poème qui reste la base essentielle de toute sa démarche. Quatre panélistes l'ayant fréquenté à différents moments ont été réunis ici et nous tracent un portrait riche de Jacques Brault, le poète, l'essayiste, le professeur, le chroniqueur radio. La rencontre avait lieu à la Maison de la Poésie et était animée par Marie-Andrée Lamontagne. Nous entendrons d'abord Louise Dupré. Louise Dupré est poète, romancière et essayiste. En tant que poète, elle a publié récemment le recueil « Plus haut que les flammes » aux éditions du Norrois. Et comme essayiste, elle a signé la présentation de la rétrospective Jacques Brault, publiée aux éditions du Norrois toujours, en 2000, de même que « Traces de l'éphémère », une anthologie de l'œuvre de Paul Chanel Malenfant, toujours aux éditions du Norrois.
Alors, je me suis demandé, d'après votre question, mais qu'est-ce qui fait en sorte que Jacques Brault est tellement reconnu comme un grand poète aujourd'hui?
Ce n'est pas seulement l'âge et d'avoir duré. Pour
non.
Non, mais c'est vrai. Dans une petite société, jeune comme la société québécoise, cet aspect-là peut jouer de mauvais tours à des écrivains.
Exactement.
Et dans le cas de Brault, ce n'est pas ça qui est en cause.
Oui. Alors, j'ai comme exergue, je suis allée chercher une phrase de Jacques Brault dans « Au fond du jardin », ce magnifique essai que vous avez sans doute tous et toutes lu. « Aurons-nous le courage d'être banal ?» C'est absolument magnifique. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui ont ce courage-là.
C'est un programme aussi, c'est un programme.
Oui. Alors, je me suis posé la question... est-ce que quand j'ai commencé à écrire au début des années 80, je considérais Jacques Brault comme un grand poète? Est-ce qu'on le considérait au Québec comme un grand poète? Je dois dire, en ce qui me concerne, et j'espère qu'il n'écoutera pas l'émission de Radio Spirale, que non. Et je me suis posé la question d'où ça vient? Alors, Jacques Brault est un poète de l'intime. C'est un poète qui a travaillé beaucoup à partir de l'intimisme, aussi de la mémoire collective, mais qui a développé toute une vision de l'intime. Et on se rend compte, on se rappelle qu'il y a eu un retour à l'intime dans la poésie québécoise des années 80, mais que, curieusement, on citait rarement Brault comme un précurseur ou voire comme un chef de file de ce mouvement-là, justement parce que Jacques Brault est quelqu'un qui est resté en dehors des courants, des modes et des mouvements littéraires. Bon, il n'en reste pas moins que son écriture, on le sait, appartient à l'intime dans les deux sens du concept. D'une part, parce qu'il aborde le petit, le banal, le familier, le quotidien, mais aussi dans son sens plus profond, il aborde l'étrangeté, ce qui implique d'aller à la rencontre de l'autre en soi, de l'imprévisible et de l'inouï. Alors, l'intimisme de Brault met en relation les deux acceptions du terme, puisque l'investigation du quotidien permet de rendre étrange la réalité, de la sortir du convenable et du convenu, de faire en sorte que le jeu découvre ce qu'il y a de plus intérieur en lui, c'est-à-dire, il le dit dans « Au fond du jardin », l'anonymat. Bon, dans les années 80, ce n'était pas ça. Je veux dire, ce que cherchaient les poètes de l'intime au moment où j'ai commencé à écrire, ce n'était pas justement l'anonymat. Bon, la réflexion de Brault souligne la nécessité de prendre une distance avec soi-même, de se quitter, d'effacer ses repères subjectifs. Et la poésie est au prix d'une destruction du connu, de l'acceptation du vide, voire du néant, terme qui revient aussi. Alors, l'écriture de Brault est sous le signe d'un refus du grand lyrisme, on le sait, on l'a beaucoup dit. Ouvrant sur le chant qui fait résonner la mélancolie, le poète intimiste cherche plutôt à pervertir le chanté par l'infiltration de la prose, à décevoir le chant, à brouiller les frontières entre la poésie et la prose. Ça, ce qui est bien des années 80 aussi. Bon. En bout de ligne, écrit Jacques Brault, l'écriture intimiste poussée dans son dernier retranchement est une agonie, un passage dangereux vers l'insensé. Et quand on dit insensé, on dit nécessairement silence. Je vous suggère de relire le très beau texte tout juste dans Au fond du jardin, où Brault préconise, à côté d'une écriture qui cherche les effets brillants, pour ne pas dire ronflants, une écriture de la discrétion du dépouillement, qui va plutôt du côté de la tendresse que de la passion. Alors, discrétion, tendresse, humilité, reconnaître que l'individu, tout comme le monde, sont creusés par le rien, permet de s'alléger, et on comprend dès lors le sens de l'humour chez Jacques Brault, le sens de l'ironie aussi, qui empêche de se prendre au sérieux et de prendre le monde au tragique. Alors, peut-être qu'on avait tendance à se prendre très au sérieux au début des années 80. Bon, Brault a cherché à désacraliser la poésie et sans pourtant tenter d'expliquer le phénomène poétique par un discours scientifique, en témoigne son très beau texte « Dans la nuit du poème ». Et je ne peux pas m'empêcher de vous suggérer de lire ce texte si vous ne l'avez déjà fait, où il aborde le mystère poétique en disant qu'il est incapable d'y apporter une réponse. La question reste ouverte, comme le poème, qui va, et je le cite, « vers quelques liens ouverts à occuper », dit-il, quand il se réfère à cela. Bon, la poésie, c'est un cheminement vers le silence d'un lieu innommable qu'on essaie en vain de nommer, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas. En ce sens, la poésie n'est pas qu'une question de forme. Alors, c'est aussi une question qui dépasse le savoir qu'on pourrait avoir des formes pour ouvrir un espace libre, pour créer une vacance dans l'enchaînement langagier, produire une perte, un déchet, une chute de non-sens, je le cite, « afin qu'ait lieu là, dans ce neutre, le changement ou le transport ou le transfert qui fait la figure sans laquelle il n'y aurait que de juste dénomination. » Alors, la justesse va justement contre les justes dénominations. Alors, les mots « perte »,« déchet », »,« chute », »,« non-sens », évidemment, évoquent le trajet de Brault, qui ne va pas vers l'élévation, mais, on le sait, vers la clochardisation, dans la poubellisation de la poésie, et qui va vers le détritus, la pollution. Et c'est de là que peut surgir la clarté pour lui. Alors, l'intime dont parle Jacques Brault n'a pas à voir avec une quête identitaire. Que cette quête interroge l'identité québécoise, sexuée, gay ou lesbienne, ou encore l'identité migrante, mais elle va du côté du dépouillement de l'identité ou des entités. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous citer une dernière phrase. Je veux dire qu'il y aura sans doute encore longtemps des écrivains qui ne chercheront à dire rien d'autre que le « dreit nien », je ne sais pas si je le prononce bien, Stéphane, le pur néant, et qui, chacun et chacune à sa façon, trouveront à cette tâche nulle du poème une joie impardonnable. Alors, c'est peut-être là qu'il nous rejoint très profondément, dans ce dépouillement-là, qui est le dépouillement de tout être humain devant le mystère de la poésie et le mystère du monde, qui n'est pas non plus sacralisation, je tiens à le préciser.
Nous entendrons ensuite Stéphane Lépine, figure emblématique de Feu, la chaîne culturelle de Radio-Canada de 1987 à 2002. Il est membre du conseil d'administration de la Société d'art vocal de Montréal. Il est aussi chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Il a également élaboré la série de concerts de l'OSM associant musique et littérature qui sera présentée à l'hiver 2012. Lépine est enfin rédacteur et conseiller théâtral pour plusieurs compagnies de théâtre québécoises. C'est dans le cadre de ses activités à la chaîne culturelle de Radio-Canada que Lépine a connu et fréquenté Jacques Brault.
Lorsque Paul Bélanger est entré en contact avec moi il y a quelques mois, j'ai cru comprendre implicitement, même si ce n'était pas dit, que je devais bien sûr témoigner des 15 années extrêmement touchantes que j'ai pu passer à Radio-Canada, très souvent en compagnie de Jacques Brault. Bien sûr, j'ai lu le poète, l'essayiste, le romancier, mais les gens autour de moi pourront en témoigner beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Cet après-midi, je repensais à Jacques, aux émissions que l'on a faites ensemble et à ce que je pouvais bien dire de lui ce soir. Et j'ai réécouté, comme je le fais presque automatiquement, Les délices de la solitude de Michel Corrette. Je ne peux pas, en fait, écouter cette musique sans penser à Jacques. Cette musique est à tout jamais associée à cet homme que j'aime tant. C'est par une émission de Radio-Canada, ne me demandez pas laquelle, que j'ai appris qu'il s'agissait là d'une musique qu'il chérissait tout particulièrement. Mon histoire avec Jacques a commencé au début des années 1980, au siècle dernier, à l'époque où il n'y avait pas même une chaîne culturelle de Radio-Canada. On écoutait le FM de Radio-Canada. Cette chaîne est devenue culturelle. Le mot a remplacé la chose, comme le disait si bien Jacques, c'est-à-dire qu'en devenant culturelle, elle a cessé de l'être. Et donc, au début des années 1980, j'étudiais au département d'études françaises de l'Université de Montréal, où j'étais malheureux comme les pierres. Cette université située entre l'oratoire et le cimetière. Et je me réfugiais dans l'écoute du FM de Radio-Canada. J'écoutais Musique en fête, j'écoutais les entretiens de Marie-Yvonne Kendergy, morte récemment, une pensée pour cette femme exceptionnelle. Et j'écoutais les émissions animées par Wilfrid Lemoine en fin d'après-midi, Wilfrid et tant d'autres, bien sûr. Et je ratais même très souvent des cours pour écouter la radio de Radio-Canada. Et j'ai appris d'une certaine manière à lire à travers ces émissions, et en particulier à travers les commentaires remarquables et remarquablement sensibles de Jacques sur Flannery O'Connor, Carson McCullers, Emily Dickinson, Robert Marteau, combien d'autres. Et c'est à la même époque que je lisais Jacques, ou un peu plus tard, peut-être aux alentours de 1984-85, que je lisais Jacques dans Liberté, où il publiait dans chaque numéro un segment de ce qui allait devenir aux saisons au château. Et ça a été vraiment pour moi une époque fondatrice. Je le disais, bon, à la blague, je me sentais vraiment malheureux comme les pierres à l'université. J'avais vraiment l'impression de n'y avoir pas ma place. Et un homme comme Jacques m'a permis de comprendre qu'il était possible d'avoir un autre rapport à la littérature que celui que les universitaires peuvent avoir. Et plus tard, un homme comme André Major, je n'ai pas besoin de vous le dire, qui a été non seulement un maître, mais un père pour moi, m'a confirmé qu'il y avait place pour un autre dialogue avec la littérature. Un dialogue que j'ai tenté à ma manière de poursuivre, d'approfondir pendant mes années de radio. Et c'est curieux, je me suis rendu compte en arrivant qu'on a tous ressorti au fond du jardin au cours des derniers jours, qui est peut-être le livre de Jacques qui m'est le plus cher, où il dit « Que de fadaises parmi les lourdes théories critiques ». Et évidemment, je pense comme lui. Donc, Marie-André le disait dans sa présentation, à partir de 1987, j'ai eu le plaisir de, et le privilège de côtoyer Jacques à la radio de Radio-Canada. D'abord, nous étions collaborateurs aux mêmes émissions réalisées par André Major. Par la suite, j'ai animé des émissions auxquelles il a collaboré, participé. Et j'ai ensuite signé des émissions documentaires, portraits d'écrivains, auquel il a collaboré. Et puis, je dois dire que aujourd'hui que nous vivons dans un paysage dévasté, aujourd'hui que je contemple le rivage à l'abandon, pour reprendre l'expression de Heiner Müller, qui est devenu le paysage littéraire et médiatique québécois, j'éprouve une certaine nostalgie pour ce qui se faisait au siècle dernier. Et je repense donc au moment privilégié que j'ai pu vivre avec Jacques Brault, à sa douceur, à sa présence, à son écoute, à sa manière exceptionnelle de parler de la littérature sans affectation, sans jargon universitaire. Il entretenait un rapport véritablement intime avec les écrivains qui l'accompagnaient. Je vous précise, si vous l'avez oublié, qu'Au fond du jardin a pour sous-titre accompagnement. Et à la radio, ce sont ces accompagnements, en fait, dont il témoignait si magnifiquement. Je me souviens que Jacques, on en parlait tout à l'heure, Jacques arrivait toujours avec son sac et une chemise portant le nom de l'écrivain. Et je soupçonne d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a chez lui des chemises sur l'ensemble des écrivains qu'il a lus, c'est-à-dire la littérature universelle. Et il ouvrait comme ça sa chemise et déposait ses notes, comme je l'ai fait devant lui, s'appuyait dessus et ne les consultait pas. Il me parlait. Et c'est ce qui fait sans doute que l'auditeur avait l'impression que Jacques Brault lui parlait. Il s'adressait à moi et par conséquent s'adressait à tous les auditeurs intimement pour leur parler des écrivains qui lui étaient chers. Il refusait systématiquement de parler des écrivains avec lesquels il n'avait pas d'affinité élective. Alors, c'est ainsi qu'il parlait de Jean-Pierre Isénude, de Mallarmé, de Valérie Larbeau, d'Apollinaire, de Montaigne. Bon, la liste pourrait continuer comme ça, infinie. Et je préciserai jamais suffisamment à quel point il avait une manière exceptionnelle et rare de parler de la littérature et de ne jamais jargonner. Je me souviens, je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là, d'avoir dit en onde devant lui, d'avoir employé le mot paradigmatique. Et lui, de faire un silence et de me dire « Pas de vulgarité, s'il vous plaît. »
C'était un gros mot.
C'était un gros mot. Impardonnable pour Charles. Alors, vous pensez bien que je n'ai pas coupé ce passage au montage qui était vraiment trop beau. Autre exemple de commentaire suave. J'avais cité dans un autre moment d'égarement un autre de ces universitaires obtus. On parlait de quel écrivain, j'ai oublié. Et je cite donc ce commentaire savant d'un universitaire, autre silence de Jacques. Ben coudon. Ce ben coudon était pour moi une sorte de rappel à l'ordre.
C'est l'art de la scolie antique.
Et à partir de là, je n'ai, je vous le jure, jamais plus tenu de propos savants et de notes en bas de page implicites dans des émissions à Radio-Canada. Dans « Maîtres anciens » de Thomas Bernhardt, le personnage de Reger parle de ses lecteurs qui connaissent aussi peu le livre qu'ils lisent que les passagers d'un avion, le paysage qu'ils survolent. J'adore cette formule. Eh bien, Jacques Brault appartient à la race inverse, si je puis dire. Il appartient à ces lecteurs qui ont un rapport intime, j'oserais dire prégnant, le mot n'est pas trop savant, prégnant avec les œuvres. Un livre comme « Au fond du jardin », on va tous en parler, chacun à sa manière, cet après-midi. Un livre comme « Au fond du jardin » témoigne justement de la qualité de ses accompagnements. À travers ces portraits d'écrivains jamais nommés, je retrouve le Jacques Brault qui savait si bien parler de la littérature à la radio. Alors, je vous dirais que dans ces textes qui me sont les plus chers, comme dans les portraits d'écrivains qu'il savait si bien dessiner à la radio, toujours Jacques nous proposait une lecture intime, intimiste, une lecture d'écrivain. Bon, en lisant, en écrivant, disait Julien Gracq, et oui, j'éprouve une sorte de nostalgie parce qu'ils se font dorénavant très, très rares les lieux aujourd'hui où sont possibles des dialogues de cette nature aussi intime. Et ils se font rares les lecteurs sensibles et attentifs comme Jacques Brault. Et en relisant moi aussi au fond du jardin, je suis tombé sur cette phrase qui m'a ému profondément, que j'avais oubliée. Pour aimer l'autre, il faut se reconnaître vulnérable. Eh bien, je pense que Jacques Brault aime les écrivains et les œuvres qui l'accompagnent. Et si toi, Yvon, t'as déjà dit que la qualité première d'un écrivain, c'est la compassion, je pense que la qualité première d'un lecteur, c'est cet amour et cette vulnérabilité liée à l'acte de lecture. Et à cet égard, Jacques Brault est pour moi un modèle.
Stéphane Lépine, merci de ce témoignage, c'est le mot qu'il faut donner à vos propos. J'ajouterais que le paradoxe, donc on a compris que vous étiez malheureux à l'université et que vous aviez gardé de mauvais souvenirs, mais le paradoxe, c'est que ce Jacques Brault, dont vous reconnaissez tous les mérites et à juste titre, lui était aussi de l'université au même moment.
Et je ne m'expliquerai jamais pourquoi je n'ai pas suivi ses cours.
Eh bien, moi, pour la petite histoire, j'ai fait un séminaire de maîtrise avec lui, et ça, le séminaire s'intitulait « Critique des créateurs ».
Ah, voilà.
Alors, c'est une illustration, en fait, oui, à l'intérieur même du cadre de l'université, de la démarche que vous décrivez, en tout cas, certainement de l'attitude devant les textes. Alors, peut-être que l'université, il peut y avoir des enclaves, des moments de...
Jacques Brault pourrait-il enseigner à l'université aujourd'hui? Là est la question.
Oui, ben, peut-être que de la même manière que la chaîne culturelle n'est plus cette université ou ce type de... Encore, il faut savoir, il faut se poser la question.
Nous entendrons maintenant Frédéric Bernier. Après des études en philosophie et en littérature à l'Université de Montréal, elle enseigne maintenant au Cégep Saint-Laurent. Elle fait aussi partie du comité de rédaction des cahiers littéraires Contre-jour. En 2004, elle faisait paraître « De seuil en effacement », une étude autour des essais de Jacques Brault, et plus récemment, aux presses de l'Université de Montréal, un ouvrage sur Saint-Denis-Garneau et Beckett intitulé « La voix et l'os, imaginaire de la 16 ».
J'ai cherché, moi, parce qu'on ne nous avait pas donné d'angle d'attaque particulier, une expression qui me permet de rendre compte de mon rapport à cette œuvre-là, qui, pour moi, rend compte aussi de ce qui est, d'après moi, le rythme fondamental de cette œuvre-là. Et là, je pense autant à l'œuvre poétique qu'à l'œuvre essayistique et même au roman. Et une expression m'est venue en tête qui est celle-ci, « Brault l'interrupteur ». Évidemment, il y a cette idée d'interrupteur parce qu'il nous fait vaciller sans cesse dans son œuvre entre la nuit et le jour, entre l'ombre et la lumière, entre une mélancolie fondamentale et des éclairs épiphaniques. Et ce clignotement-là ou cette bascule-là me semble vraiment une sorte de battement fondamental, fondateur peut-être, vital dans cette œuvre-là.
Et il me semble que non seulement on peut entendre cette expression-là sur le plan thématique, donc dans cette façon de nous faire passer de l'ombre à la lumière, mais ça me permet aussi de mieux comprendre le jeu des voix chez Brault, le rapport aux formes qui sont diverses chez Brault, puisqu'il a exploré autant donc, la poésie que l'essai. Moi, je me suis intéressée particulièrement à l'essai, mais toujours avec la poésie en regard, évidemment. Et pour moi, c'est une œuvre qui fait un tout et qui est chaque fois mue par cette poétique de l'interruption, où la poésie est sans cesse interrompue par la prose, où le poème est interrompu par la prose du monde, ou la poésie dans des recueils nombreux comme L'en dessous l'admirable, comme Il n'y a plus de chemin, comme Trois fois passera, où on a cette alternance justement entre le vers et la prose. Et cette alternance-là n'est pas que formelle, elle porte aussi tout ce qui, chez Brault, est porté par le mot prose, hein, qui nomme à la fois, chaque fois, une forme, mais aussi un rapport au monde, avec ce que le monde a de douloureux, d'âpre, d'aride, et à quel point, chez Brault, le langage doit toujours s'ouvrir comme une blessure à cette prose-là. Donc, cette interruption-là, je l'ai retrouvée aussi de manière, je dirais, peut-être plus étonnante pour moi dans le dernier essai publié de Brault, par une sorte de battement inusité, ou en tout cas que je n'avais pas rencontré de cette manière-là dans l'œuvre essayistique de Brault, de battement entre le savoir et le non-savoir. On reconnaît souvent à Brault cette façon de se retrancher derrière une sorte de non-savoir. On a beaucoup attribué cette position ou cette posture à une sorte de modestie. Et là, il me semblait qu'on avait... je ne sais pas si c'est une élucidation, mais que ce rapport-là au savoir se posait autrement dans le dernier essai, qui est certainement donc s'intitule Dans la nuit du poème, qui est une traversée donc de la forme poétique, une interrogation sur le poème, ce qu'est le poème, ce qu'est la forme poétique, et c'est certainement, me semble-t-il, l'essai le plus savant et le plus ouvertement, en tout cas, érudit de Brault, dont on a toujours senti l'immense érudition, mais qui était masquée, voilée. Et là, on a l'impression que Brault laisse davantage parler le savant en lui, mais c'est ultimement pour, à la fin de l'essai, venir réaffirmer l'énigme de façon assez étonnante. Hein. Il dit à la fin, donc après nous avoir longuement entretenu de l'histoire de la forme poétique dans des développements assez savants, très érudits, j'ai appris beaucoup de choses parce que je connais peu de choses de la forme, l'histoire de la forme poétique. Et on découvre aussi à quel point chez Brault, la mémoire, le vers est porteur de cette mémoire des formes poétiques anciennes et à quel point pour lui c'est important. Évidemment, on le sent dans sa pratique, mais là, c'est affirmé de manière plus évidente dans son essai et à quel point finalement, chez lui, tout se fait dans la rencontre du vers, dans ce qu'il appelle le face-à-face du vers et de la prose. Mais donc, tout ce long développement très, très savant se trouve d'une certaine manière court-circuité dans son élan savant par le non-savoir, par la réaffirmation donc de l'énigme. Et je cite donc une des dernières paroles dans cet essai, donc qui vient à la toute fin. « Je ne déchiffrerai pas cette énigme dont je vis et je meurs et dont ma langue porte la cicatrice qui s'ouvre et se referme au rythme de cette vie-mort. » Donc, réaffirmation de cette espèce de battement fondamental entre vie et mort, et surtout, pour moi, en tout cas, éclaircissement du fait que le rapport entre le savoir et le non-savoir chez lui n'est pas affaire de modestie, mais affaire justement de rythme fondamental, et que l'énigme qui vient voiler le savoir joue peut-être le même rôle que l'irruption de la prose dans le poème.
Oui.
Briser l'élan, interrompre ce qui menacerait d'être dans le ronron du savoir.
Oui. Et il dira même, Frédéric Bernier, il écrira même que le rythme, c'est l'élément inaugural du poème. Donc c'est ce qui fait advenir le poème, en tout cas certainement au tout début. Alors c'est intéressant que vous preniez appui sur cette dimension rythmique, au fond, lorsqu'il s'agit d'aborder l'œuvre.
Oui.
Yvon Rivard, dernier panéliste de cette table ronde, est romancier, essayiste et professeur retraité de l'Université McGill. Il a également été au comité de rédaction de la revue Liberté de 1976 à 1995. Parmi les œuvres importantes de Rivard, on compte les essais « Le bout cassé de tous les chemins », de même que « Personne n'est une île », ainsi que les romans « Le milieu du jour » et « Le siècle de Jeanne ».
Bon, alors la première réponse qui m'est venue à la question « Pourquoi est-ce que cette réputation est méritée? » Ma réponse, c'est parce qu'il a tout fait, il a bien fait, il n'a pas trop fait. Okay. Il a tout fait, je fais allusion à ce que tout le monde a noté tout à l'heure, il a pratiqué tous les genres avec un égal bonheur, ce qui est très rare, poésie, essai, critique, traduction. Il a bien fait, et je vais revenir un peu sur ce que Frédéric disait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque genre, Brault a pris au sérieux les genres littéraires qu'il a pratiqués. Il s'est soumis aux contraintes propres à chaque genre en vue d'en tirer le maximum. Donc, il était comme... Il se plaisait à dire qu'il squattait la littérature, qu'il habitait la culture en squatter. Mais le squatter était allé à l'école, comme le rappelait Frédéric. Et s'il pouvait squatter la maison de la culture, c'est qu'il la connaissait par cœur, d'une certaine façon. Et le dernier essai prouve, évidemment, même si au tout début, il nous dit qu'il n'est pas beaucoup porté sur l'érudition. Les 40 premières pages nous font tous penser que nous ne sommes pas allés à l'école. Donc, il a bien fait son travail minutieusement, comme quelqu'un qui a appris la grammaire, pas juste la grammaire du cœur, qui a appris la versification, qui a tout appris. C'est un médiéviste, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a bien fait ça. Et je dis, troisième chose qui le caractérise, il n'a pas trop fait ou il a su s'arrêter à temps dans ce qu'il faisait. Quand il pratique un genre, encore là, Frédéric me devance, quand il pratique un genre, même à l'intérieur d'un poème ou d'un essai, il sait toujours s'arrêter avant que le poème ou l'essai soit complètement accompli. C'est une de ses idées forces. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup Michaud, qui disait qu'il fallait savoir laisser un poème inaccompli. C'est l'inaccomplissement d'une forme qui l'a fait communiquer avec la forme suivante. Donc, au fond, c'est ça, à mon avis, qui le caractérise pour moi. Si je faisais un commentaire critique comme on en faisait dans les années 70 et 80 sur la littérature québécoise et qui voulait qu'on lit toujours le destin d'une œuvre au destin du pays ou le destin du pays au destin d'une œuvre, pendant les derniers jours, j'ai relu du Jacques Brault et il m'est apparu, au fond, c'est ce que je voulais vous dire surtout ce soir, j'ai l'impression que c'est peut-être pas le seul, mais un de ceux qui ont fait entrer la littérature au Québec. Pas le Québec dans la littérature, il y a des écrivains avant lui, mais qui ont fait entrer, je dirais presque avec bonheur et naturel, la littérature dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on voit là quelqu'un qui assume totalement son métier d'écrivain, sans aucune mauvaise conscience, sans se considérer comme un fils déchu de race surhumaine comme l'autre, ou d'écrire faute d'être banquier comme un autre. Voilà quelqu'un qui, issu d'un milieu modeste dont il a très, très bien parlé, assume, j'allais dire, comme un nouvel artisan, son nouveau métier. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'unique dont nous, on bénéficie aujourd'hui, qui venons pourtant quelques années à peine après lui et plus jeune sans doute. Qu'il est possible non seulement d'être écrivain et d'être allé à l'école, comme Frédéric l'a rappelé, qu'il est possible d'être issu d'un héritage de la pauvreté et de travailler à créer un autre héritage qui passerait par la littérature. Et s'il a pu faire ça, je dirais que c'est qu'il a fait son travail d'écrivain et d'intellectuel modestement, exactement avec les mêmes qualités qui étaient celles des artisans de ses parents ou de ses ancêtres et tout. Et deuxième explication au fait qu'il n'est pas une personne de lettres, on sait très bien, mais que c'est un écrivain qui assume pleinement son métier, c'est qu'il n'a jamais, comment dire, c'est jamais figé dans un des pôles qu'on retrouve dans tous ses œuvres, comme dans toute véritable littérature. C'est-à-dire, le mot-clé pour comprendre Brault, c'est le mot « passage ». Il passe tout le temps d'un niveau ou d'un registre d'être ou d'expression à un autre. Passe constamment du silence, des choses muettes, non nommées, au langage. Passe constamment, et c'est tellement visible dans, au fond du jardin, du concret sensible à l'abstraction qui vient inévitablement avec le langage. Passe constamment de la sensation à l'imagination, qu'il décrit comme une perception élargie. Et ce qu'il fait qu'au fond, il assume totalement son métier sans aucun regret, sans une mauvaise conscience, c'est qu'il n'idolâtre jamais aucun des deux pôles. On ne verra jamais Brault magnifier le langage ni le déprécier. C'est-à-dire, le langage, encore là, ça s'inscrit dans une poétique ou dans une éthique de l'artisan, c'est un outil et il doit faire bien son travail. Donc, il n'y a jamais une idole, il n'y a jamais ni cynisme ni triomphalisme dans l'œuvre de Brault à cause de ça. Je disais que le mot-clé, c'est le mot « passage », le mot « seuil » dans le livre que Frédéric a écrit, qui est un très beau mot pour définir l'œuvre de Brault. Je dirais que toute cette œuvre s'articule, se fonde sur l'instant qu'il rappelle en citant Blanchot dans cet ouvrage-là. Blanchot dit qu'il y a un moment où, je le cite, « où les mots deviennent plus forts que le sens et où le sens devient plus matériel que le mot ». C'est Jacques qui cite Blanchot. Et je trouve que ça définit très, très bien, au fond, toute la poésie de Brault, et pas juste la poésie, parce que pour moi, tout le monde dit un grand poète, moi je dirais un très grand écrivain, non pas que je n'aime pas sa poésie, mais j'avoue que j'ai de plus en plus de mal, encore une fois comme Frédéric a tout dit, beaucoup de mal à dissocier la poésie de la prose. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est un poème en prose? Est-ce que c'est de la critique littéraire? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de difficile à tout. Et la preuve, quand il s'attaque à la question de définir ce qu'est la poésie, il commence par dire cette chose, évidemment, qui m'a ravi, à savoir que Mrs. Dalloway, c'était un haïku de 200 pages. Bon.
D'ailleurs, alors, Virginia Woolf elle-même avait envie de dire que ses romans expérimentaux étaient des poèmes en prose. Des poèmes. Elle l'a écrit dans son journal.
Au fond, j'allais dire, ce qui se passe de magique, il n'y a pas d'autre mot, sauf que c'est un mot qu'il n'aimerait pas. Ce qui se passe, qui fait mon bonheur en tout cas, dans ses poèmes, c'est qu'il prend toujours, on a évoqué le quotidien tout à l'heure, il y a un parti pris du quotidien et un parti pris de langage, j'allais dire, je ne sais pas comment le qualifier, un langage discret, un langage humble et aussi de formes qui ne sont jamais trop parfaites. Des formes qui fuient un peu et qui n'étouffent pas les choses qui sont censées embrasser. Alors, quand vous prenez la combinaison parfaite, pourrait-on dire, vous prenez des objets très quotidiens, une réalité très quotidienne, très banale, qui ose être banale, comme disait Louise, et il prend ça, il baigne ça dans un langage qui laisse toujours un peu, pas imprécis, mais aéré, flou, avec une ouverture. Alors, vous mêlez les deux et il se produit cette chose absolument incroyable, que nous ne sommes plus tout à fait dans le mot, nous ne sommes plus tout à fait dans le chose, on est dans le temps, exactement. Le mot-clé, bon, on va rire parce que c'est ma marotte, c'est mon os, mais écoutez, c'est partout présent. Il y a un mot que Brault utilise beaucoup et qui n'avait pas vraiment attiré mon attention jusqu'à la semaine dernière, c'est le mot « rêverie ». Il dit, mais la rêverie, ce n'est pas le fantastique ou imaginer des choses comme ça, il l'appelle précisément « rêver le temps ». Alors, la rêverie, qu'est-ce que c'est? C'est cet instant où, quand j'ai pris une chose quotidienne, je l'ai trempée dans un langage qui ne va pas l'étouffer, je me retrouve toujours ici et là-bas, dans le passé et dans le futur, entre une chose, entre les mailles et tout. Et là, il y a cette idée qui est absolument hallucinante, à mon avis, parce qu'évidemment, quand on... La simplicité chez Brault cache toujours des abîmes de profondeur, n'est-ce pas? Il se produit quelque chose avec la rêverie du temps, c'est qu'on ne va pas atteindre l'immortalité, parce que ce serait vraiment contraire à Brault d'attaquer la mort de front, évidemment, trop rusé pour cela et trop sage pour cela. Donc, il ne l'attaque pas de front. La rêverie du temps fait en sorte, dit-il, qu'elle se fait complice du temps. La rêverie du temps, tenez-vous bien, va dissiper ce qui va l'anéantir. Je le lis, c'est dormirez là-dessus. La rêverie du temps, vie et mort embrassées, ne débouche sur rien. Elle ne cherche pas à conclure. Elle n'est que dissipation de ce qui va la détruire. Beau paradoxe. Elle vague, englose dans le tendre intimé d'un sursis, puis se font en une nouvelle rumeur. Elles trompent l'irréversible par le révocable et tout recommence puisque tout finit. C'est une sorte de stratégie absolument hallucinante pour déjouer le temps que de faire en sorte qu'on se fait complice de ce qui va nous détruire et ainsi peut-être faire en sorte qu'on passe à travers les mailles et tout. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ce que Louise disait tout à l'heure, c'est sûr que le mot néant, il y a ce côté de difficulté, etc. Mais comment expliquer alors qu'il y a aussi chez Brault l'autre pôle qui est aussi fort et qui est le suivant, je ne sais pas d'autre mot pour le qualifier, qu'il y a toujours, en tout cas sur moi, un effet pacifiant. Comme si, à le lire, non seulement on avait déjoué la mort, mais on avait un petit sursis, et que peut-être ainsi, en collaborant à ce qui nous détruit, on devient presque, pas immortel, mais plus fort que ce qui nous détruit.
Comme un surcroît de vie.
Comme un surcroît. Il y a toujours... Alors, on parlait de la parole de Brault. C'est sûr qu'il était merveilleux à la radio, mais il avait une voix absolument incroyable. On pouvait l'écouter même s'il avait lu une liste d'épiceries. Mais en plus, il y a quelque chose de quelqu'un qui tient en clos, dans son langage, dans une forme, le tragique, le néant, mais qui en fait une chose quasi quotidienne avec laquelle tu dis « oui, c'est pas facile, mais on va faire avec, d'une certaine façon. » C'est tout. Alors, est triste, mais comme dit l'autre, il y a un bonheur à être triste.
Oui, c'est comme on est triste, mais en souriant, d'une certaine façon. Alors, on va peut-être répartir les micros, parce que tout à l'heure, vous allez maintenant...
J'en ai deux.
Oui, tout est concentré du côté d'Yvon Rivard par une sorte de jeu de déplacement des micros. Alors, beaucoup de choses ont été dites, évidemment, dans vos propos. J'observe toutefois que... Un élément qui pourrait rassembler tout le monde, ce serait la question du savoir de la poésie ou du savoir de l'écrivain. Parce que ce qui est sous-jacent à cette question de l'ignorance affirmée d'emblée dans la nuit du poème, c'est aussi le savoir du poète. Et j'ajoute que cette ignorance, c'est assez intéressant de voir qu'elle était déjà présente dans un texte qui s'appelle « Quelque chose de simple » qui a été repris dans Chemin faisant, où il dit « J'ignore ce qu'est la poésie, d'où elle vient, où elle va, vous connaissez ce passage, j'ignore jusqu'à son nom et son visage, mais je connais à en mourir son absence. » Alors, nous voici des années plus tard avec le même aveu d'ignorance. Bien sûr, personne n'est dupe. Cette ignorance, elle s'appuie sur une érudition dépassée, en quelque sorte. Alors, à quoi tient le savoir d'un poète tel que Brault? Yvon Rivard.
Il y a deux, c'est parce que ça, c'est, Frédéric l'a relevé, c'est très spécial, les 35 premières pages ici. Il n'y a pas d'équivalent dans l'œuvre de Brault, là. Au fond, c'est probablement, je sais pas, c'est peut-être le cours qu'il n'a jamais osé donner ou qu'il n'a pas voulu donner, je ne sais trop. C'est un cours, là.
Oui, c'est une sorte de mise à plat des formes poétiques.
Ouais, il prend le vers, il le replonge dans son histoire, on suit. Donc, le vers, c'est fascinant aussi, même pour des ignorants comme moi. Le vers devient quelque chose de vivant et tout. Mais la magie, c'est pas ça le savoir de Brault. Ça, c'est exceptionnel. Ça fait partie comme quelqu'un apprend la grammaire avant d'écrire. Ça fait partie de ça. Le savoir de Brault, essentiellement, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui travaille le mot, qui travaille la forme, qui cisèle, qui gosse, qui travaille et tout. Ça, c'est son savoir. L'autre côté qui n'est pas le savoir sur lequel débouche cet essai, là, c'est quand le mot a bien fait son travail, puis là, il se dit, débrouillez-vous avec l'immensité, moi, le chemin s'arrête là. Après ça, là, mon savoir, la forme que j'ai mis en place, que j'ai bien travaillé comme un bon artisan, je reviens là-dessus, c'est très important. Il n'y a rien de bâclé chez Brault, là. Même quand ça a l'air d'être du Beckett, c'est rien de bâclé. Ça s'en va comme ça. Et le savoir s'abolit dans une sorte d'ignorance qui n'est pas l'ignorance du métier, mais l'ignorance, au fond, presque métaphysique, c'est-à-dire... on ne sait pas trop où ça mène.
Frédéric Bernier, vous approchez le micro, s'il vous plaît.
J'ai envie de rebondir un peu sur cette question du rapport entre le savoir et la forme.
il m'est apparu vraiment à la lecture de ce dernier essai, justement à quel point, je l'ai dit, Brault est attaché à certaines formes et à la mémoire de ces formes-là.
Mais à des formes fixes? Ou...
Et même à des formes fixes, oui. Et ça m'a permis de relire d'une autre manière, je dirais, son dernier recueil de poésie, en me rendant compte qu'il s'agit aussi d'un recueil à sa manière très savant, où il me semble jamais de façon aussi systématique, Brault s'essaye et joue avec diverses formes. On a les quatrains, on a des proses, on a ce qu'il appelle les presque chansons, on a les tombeaux et des proses. Donc, on a là un éventail de formes et on a là, il me semble, un indice du fait que la poésie chez Brault tient à la fois à la forme et à son interruption, pour revenir sur mon mot de tout à l'heure, une espèce de paradoxe qui fait en sorte qu'on est peut-être justement tenu dans cette mélancolie, dans cette dureté, dans cette douleur, par une forme qui permet de contenir ce qui autrement fuirait, mais une forme qui ne se permet jamais la perfection. Donc, il me semble que le savoir de ces formes-là prend cette forme.
Oui, une idée maîtresse, Louise Dupré, de cet essai de Brault, puis on en revient à la question des formes fixes et de la forme en poésie. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Frédéric Bernier, c'est que Brault explique que le poème actuel garde la mémoire de toutes les formes anciennes du poème et que non, c'est pas seulement des traces, mettons, formelles, mais c'est une sorte de mémoire atavique, on pourrait dire, du poème, mais je m'adresse à la poète en vous. Est-ce donc à dire que l'invention compterait pour peu dans la poésie? Avant tout, poésie étant avant tout une sorte de force génératrice de formes, donnée quasiment une fois pour toutes et qu'il est voué à d'heureuses et diverses variations par la suite, ce que vous feriez, ce que feraient les poètes ici présents aujourd'hui?
Je crois que dans cet essai-là, il nous rappelle justement que l'histoire est là et que si le rythme est individuel et personnel, le rythme est aussi une donnée qui nous vient de l'histoire. Et ça, on l'a vu chez d'autres poètes, chez Miron et tout ça, la mémoire des lectures qu'on fait est extrêmement prégnante. Alors, mais chez Brault, Brault a toujours travaillé à partir des formes fixes, évidemment, pour les pervertir, pour les interrompre, pour les questionner, pour les subvertir. Mais on lit dès ses premiers recueils, on voit chez lui le médiéviste, on voit l'homme qui connaît la poésie, qui connaît le vers et qui travaille à partir du vers. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je peux parler de poètes, j'ai beaucoup de mal à parler de grands poètes, je reconnais que pour moi, c'est un poète extrêmement important, parce qu'il est capable à la fois de garder la mémoire des formes, mais aussi constamment de la détruire, cette mémoire-là, de la travailler. Yvon parlait de l'artisan, mais l'artisan, c'est celui aussi qui n'imite pas, mais qui est capable, à partir de son savoir, de sa capacité de ciseler le verre, de défaire ce qu'il a appris et pour recréer quelque chose qui est personnel. Et ça, c'est son grand talent, à mon avis, et c'est ce que cherche tout poète, je crois, c'est-à-dire de partir justement d'un fond commun et d'en faire autre chose, d'apporter sa petite pierre. Mmh. Qui, dans le cas de Brault, est immense.
Et qu'il met également en pratique au moment de traduire de la poésie, et ça donne la non-traduction, enfin, cette idée de non-traduction.
Oui, oui. Ben justement, il est dans le négatif, dans la négativité, il cherche justement à miner, à trouer le savoir. plutôt qu'à effacer le savoir, à le trouer et à en faire autre chose, à l'ouvrir. J'aime beaucoup le mot « ouverture » chez lui, qui revient sans cesse. On ouvre le savoir et on en fait autre chose. On recrée à partir de ça. Et moi, je ne vois pas du tout le néant comme quelque chose de noir ou de négatif. Au contraire, le néant permet. C'est une fois qu'il y a des trous, qu'il y a des vides, qu'il n'y a plus rien, que là, on peut penser. Ça nous ouvre des portes.
Oui, c'est un néant philosophique.
Le vide que le néant. C'est ce que tu dis, c'est plutôt le vide que le néant. Je ne sais pas quel mot revient le plus souvent.
Et lui semble pas, en tout cas, je n'ai pas fait une étude en préparant cette table ronde-là, une étude complète, mais il emploie, oui, moi j'emploierais le vide, lui emploie le néant. Quand il parle du pur néant, il vise ce pur néant-là. Mais évidemment, je suis d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas constamment de ce néant-là. Il y a quelque chose.
Frédéric Bernier.
J'ai envie de citer un poème pour appuyer ce que vous venez de dire, parce que je tombe dessus. Et il me semble
devant le micro, s'il vous plaît.
Donc, comme c'est un des quatrains de l'artisan, comme Édipe qui n'a plus Dieu que son bâton, elle s'en va à la simple poésie dont on casse la voix. Elle aspire, bouche béante, le mutisme au cœur du néant qui nous enfante.
Ouais. Ouais. Stéphane Lépine, vous avez dit tout à l'heure que le bro que vous avez côtoyé à la radio comme commentateur de la littérature prenait bien soin de parler d'œuvres avec lesquelles il était en résonance ou en tout cas avec lesquelles il se sentait suffisamment d'affinité pour en parler. Est-ce qu'à partir de ce postulat, vous avez pu, vous pouvez maintenant, a posteriori, dégager une sorte d'esthétique qui serait propre à l'univers de Brault?
J'aurais envie tout d'abord d'évoquer l'auteur dont il lui a été le plus difficile de parler, c'est Beckett. À la lumière de ce que vous venez de dire, Frédéric et Yvon, parce qu'il y a des liens évidemment très intimes, je crois, qui unissent encore Jacques et Beckett, qui disait écrire avec impuissance et ignorance. Et je me souviens que ça avait été un moment, je dirais, mortellement touchant, lorsqu'on s'est retrouvés, Claude Lévesque, Jacques et moi, et je sentais un immense désarroi de la part de Jacques, incapable de nommer ce rapport au néant qui l'anime et qui, selon lui, anime également Beckett. Et c'est curieux, je t'entends parler, Louise, et je n'avais jamais fait le lien auparavant avant aujourd'hui, mais je me rends compte que deux des écrivains qui étaient les plus importants pour lui, c'était Beckett et Tchekhov. Et je me demande à vous entendre si ces deux écrivains ne sont pas plus proches qu'on le croit. Dans ce rapport...
L'un et l'autre.
Dans ce rapport à...
Et Saint-Denis Garneau.
Jamais parlé à mon micro.
Saint-Denis Garneau.
Jamais.
Il a écrit.
Bien sûr.
Moi, j'ai travaillé sur Saint-Denis Garneau et Beckett parce que l'œuvre de Brault m'a imposé ce rapproche. Oui. Parce qu'il me semblait que cette œuvre-là était enfantée par ces deux pères. Mmh.
Et il faut le dire, Jacques Brault a préparé l'édition critique avec Benoît Lacroix, l'édition critique qui fait encore autorité aujourd'hui des œuvres de l'œuvre de Saint-Denis Garneau aux presses de l'Université de Montréal, le journal et entre autres.
Et une dernière chose, je ne veux pas m'étendre, mais vous me demandiez s'il y avait une ligne de base continue qui pourrait unir les auteurs dont il parlait. C'est évidemment la question de l'intimité. Et une chose dont je me souviendrai toujours, où il parlait de l'immense différence, selon lui, entre un écrivain qui s'exhibe et un écrivain qui s'expose. Et je me souviens d'un développement très émouvant sur cette question. Autant il pouvait détester les écrivains qui s'exhibent, autant il pouvait me demander, hors onde par exemple, est-ce que je dois lire Hervé Guibert? Est-ce qu'il est de ces écrivains avec lesquels je peux dialoguer? Et j'avais dit oui, je crois que oui. Et on a eu une correspondance d'ailleurs à ce propos, un écrivain auquel il est venu très très tard, mais en lequel il s'est reconnu, même si ça peut sembler étonnant aujourd'hui.
Vous avez employé à quelques reprises l'adjectif « émouvant ».
Oui. La voix dont parlait si bien Yvon. Je demeure convaincu que ce qui détermine un être, c'est sa voix. Je juge la qualité d'un être sur sa voix. Et la voix de Jacques est extrêmement émouvante pour moi. parce que précisément il entretenait un rapport prégnant, intime avec les écrivains dont il témoignait en s'exposant, en osant s'exposer.
Y compris dans les inflexions de la voix.
Y compris dans les inflexions et dans la manière d'en parler, sans vouloir jamais heurter l'écrivain dont il tentait de s'approcher sans lui faire de mal.
Oui. Dans un instant, on va aller du côté du public, peut-être entendre des commentaires ou des questions, ou en tout cas poursuivre l'échange d'une autre manière avant de donner le dernier mot à Jacques Brault et à la lecture de poèmes qui est préparée. Mais avant d'aller vers le public, une question. La question du Québec est-elle une vraie question chez Jacques Brault ou pas?
Il n'y aura jamais de pays. Et je pense que tous les écrivains auxquels il s'est intéressé et dont il a parlé vivaient dans une non-appartenance systématique.
Autre commentaire, Yvon Rivard.
Il y a combien de temps?
On prendra le temps qu'il faut.
C'est une question complexe parce qu'on parle de l'histoire, il faudrait distinguer aussi des...
Vous voulez bien apporter le micro devant vous, s'il vous plaît?
Il faut distinguer aussi peut-être des périodes là, dans la vie, dans l'œuvre de Jacques Brault. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a écrit Miron le Magnifique. Là. Je ne dis pas que c'était un éloge à la poésie du pays, mais on ne peut pas parler de Miron sans passer à côté
par
de
le
cette
pays.
Question. Moi, je pense qu'il y a un attachement profond au pays chez Brault. Ce n'est pas un attachement nécessairement qui passe par, je sais pas moi, une adhésion à une idée politique ou quoi que ce soit, mais je pense qu'une œuvre qui a si bien dit toutes les petites choses qu'il a côtoyées, qui ont été son quotidien, qui font partie de la rue de Montréal, qui font partie de l'étang de Saint-Anne, il y a une sorte d'exploration du territoire qui a été le sien.
C'est une nomination.
C'est très difficile de penser Brault en dehors de son pays. Moi, j'ai beaucoup de mal à le penser. Là, quand vous avez cité, il n'y a pas de pays, on est à un autre niveau. Mais
est-ce que ce n'est pas davantage un attachement au paysage qu'au pays?
Oui, mais un paysage ne peut pas être détaché d'un pays. Il y a comme un attachement. N'oublions pas qu'il a écrit la grammaire du cœur. Si quelqu'un a été incapable de détacher une grammaire d'une sorte d'émotion, d'une sorte d'affection, on ne peut pas l'imaginer détachant un paysage d'un pays. Un paysage, c'est comme la forme que prend un pays, les couleurs, les mouvements qui constituent un pays. Donc, moi, je pense qu'il a une relation très, très juste au pays, qui est une relation, j'allais dire, presque primaire, concrète, et que c'est peut-être, au fond, la grande valeur, si on veut penser le Québec à travers Brault, un peu comme Richard Desjardins fait, il ne pense pas le Québec, il pense le territoire du Québec. C'est-à-dire, donc, aussi longtemps qu'on pense le pays en perdant le pied, en perdant de vue, en quelque sorte, ce qui est vraiment le pays, la terre, les couleurs, les mouvements, etc., tout ce qui nourrit la poésie de Brault, à ce moment-là, c'est peut-être là qu'on est en danger de perdre aussi le pays, parce qu'on a perdu cette sorte d'enracinement. Donc moi, je dirais, c'est au sens large, la poésie de Brault est profondément enracinée dans ce pays, y compris dans toute cette histoire ou dans toute cette tradition des petites gens, de ce que moi j'appelle l'héritage de la pauvreté. C'est là, on ne peut pas lire Brault comme si Brault n'était pas d'ici, c'est impossible. Bien sûr, à partir de ça, comme toutes les grandes œuvres, on le sait, et plus elle est enracinée, plus elle voyage.
Elle atteint à l'universel.
Il faudra donc que tu écrives un jour sur les liens entre Jacques Brault et Bernard Raymond.
Ah, ben si, il y en a. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Frédéric Bernier, vous vouliez intervenir?
Je pense que la réponse à votre question se trouve dans l'essai « Lettre à des amis inconnus », qui est dans la poussière du chemin ou chemin faisant. un de ces deux recueils. C'est un très, très bel essai en forme de lettre, dont la formule la plus frappante, qui est peut-être la formule finale, c'est celle que tu as rappelée tout à l'heure, celle d'habiter la culture en squatter. Ce qui permet ça, d'après Brault, d'après ce qu'il développe dans cet essai, c'est justement le fait de venir du Québec, de venir d'une culture peu sûre d'elle-même. C'est le fameux héritage de la pauvreté qu'ils vont à penser longuement. Donc, oui, je pense que paradoxalement, Brault est ancré dans un Québec, mais qui lui permet justement d'avoir un rapport particulier, peut-être cette intimité... cette manière de s'approprier presque sauvagement parfois des auteurs ce que permet peut-être pas tout rapport à la culture, il est teinté par...
En tout cas, de se les approprier en toute presque candeur, pourrait-on dire. Alors, écoutez, on va du côté du public. Il y a peut-être des commentaires, des questions, monsieur? Alors, qui veut parler? Qui veut parler sur l'idée du chemin et de la mouvance et du déplacement chez Brault? Devant le micro, s'il vous plaît. Oui.
Oui, bien, le chemin, il est là, mais c'est drôle. Je ne sais pas comment expliquer, parce que moi, vous avez cité un des recueils avec lesquels j'ai toujours eu un peu de mal. C'est justement celui-là, celui qui est très becketien. Il n'y a plus de chemin. Il y a toute une partie, je suis tout à fait d'accord avec ce que Louise disait, il y a toute une partie, sinon tragique, en tout cas très aride et très, très difficile dans l'œuvre de Brault, qui confine presque toujours à une sorte... Le mot désespoir, il ne l'utilise pas souvent. C'est un de ses mots qui est trop fort. Il préfère désespérance ou des choses comme ça. Donc, dans le recueil auquel vous faites allusion, et c'est nommé « Il n'y a plus de chemin ». Alors, quand il n'y a plus de chemin, quand il n'y a plus de mouvement, quand l'être n'est plus en passage chez Brault, il peut être en passage tout simplement par il y a une feuille qui tombe ou n'importe quoi, peut le remettre en mouvement. Dès qu'il n'est plus vraiment en mouvement, eh bien là, on est dans l'aspect que Louise a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect assez sombre. Un aspect qui, moi, m'a tenu en dehors de cette œuvre, comme je l'ai dit dans la présentation au choix de poèmes que j'ai fait, pendant un certain temps, je trouvais ça très, très difficile d'entrer dans l'œuvre de Brault parce que j'avais l'impression justement qu'il n'y avait plus de chemin, que c'était que le néant était un peu comme une poisse qui nous tombait dessus. Mais je trouve que plus cette œuvre progresse, plus elle fait son chemin avec presque rien. Il a publié, je pense, il ne l'a pas vraiment distribué, un tout petit livre sur des oiseaux. Avec quelques oiseaux, ça suffit pour faire une métaphysique chez Brault. Quelques oiseaux suffisent, en quelque sorte, à le remettre en mouvement, à redonner un chemin, à redonner cet air pur dont il parle en citant Paulhan ici. La poésie, c'est ce qui nous rend l'air plus pur qu'il cite. Alors, je trouve que c'est sûr qu'il côtoie toujours cette difficulté-là, qu'on peut l'appeler le néant ou le vide ou quoi que ce soit, mais le propre même du langage chez lui, de l'écriture, c'est... de se remettre en chemin en étant en contact avec le dehors. Je voudrais juste dire une chose, on a parlé de l'intimité, ça, c'était incontournable pour Brault, mais il ne faut jamais oublier qu'il est plus rilkéen qu'on pense. D'ailleurs, il finit son livre sur Rilke. Or, l'immensité de Brault, c'est une intimité immense, c'est-à-dire au plus profond de l'intimité, tu retrouves le dehors. Le dehors revient constamment chez Brault dans le fond du jardin. Donc, quand je dis qu'il est rilkéen, moi, je trouve que l'intimité chez Brault, elle a quand même quelque chose. Elle n'a peut-être pas la splendeur allemande de Rilke quand il dit l'espace intérieur du monde. Donc, l'intimité de Brault, et là, on revient à l'ouverture, c'est une intimité trouée. Les poches trouées de Saint-Denis-Garneau, c'est une intimité trouée sur le dehors. La plus grande intimité qu'on trouve chez Brault, c'est quand presque rien ne le distingue de ce qui est dehors.
Très juste. Commentaire? Oui, Louise Dupré?
Je ne veux pas revenir longuement sur cette question-là, parce qu'évidemment, c'est une question vaste, ça dépend... comment on considère le pays, évidemment, sur le plan physique, sur le plan géographique, sur le plan politique et tout. Mais je dirais que chaque écrivain, par définition, baigne dans son paysage et dans le paysage de son enfance et dans les paysages qui se sont succédés. Moi, je préférerais peut-être voir l'attachement de Brault pour le réel. En ce sens-là, et ça rejoindrait peut-être un peu ce que vous dites, on sent que pour lui, l'oiseau, l'arbre, le chemin, les pierres prennent corps par la langue. Ils prennent corps grâce au rythme dans le poème. Et en ce sens-là, c'est parce que je ne veux pas non plus dénouer le questionnement qu'on ne réussira pas à aborder plus profondément ce soir, mais il y a chez lui un réel attachement au concret, au réel.
Oui. Alors écoutez, on va peut-être entendre les mots de Brault. Paul Bélanger et Patrick Lafontaine, donc en guise de bouquet final, comme je l'ai dit, ont préparé un choix de texte. Alors vous pouvez peut-être, Paul Bélanger, nous présenter un peu ce que vous avez préparé.
Bien sûr. Alors évidemment, on s'excuse auprès de tous ceux qui auraient aimé entendre Jacques Brault. Je le comprends, l'ayant entendu moi-même à maintes reprises. D'ailleurs, je me souviens de l'émission de radio que tu évoquais. Et Jacques Brault perdait ses mots sur Beckett, et c'était un moment magnifique de radio. Pour ceux qui ont des vieux appareils, il y a toujours la cassette qu'on avait faite aux éditions du Norroy, où il lit plusieurs poèmes de son œuvre. Et donc, nous avons préparé tout simplement, c'est très très bref, on a choisi quelques passages ici et là dans son œuvre, en commençant par Dans la nuit du poème, et en terminant avec Il n'y a plus de chemin, prose, poème, toujours. Et donc, ce seront quelques minutes simplement en compagnie de Jacques Brault pour ce qui est de sa poésie comme telle. Voilà.
Alors, Paul Bélanger et Patrick Lafontaine. D'abord, Patrick Lafontaine.
Oui, donc un extrait de Dans la nuit du poème. On met en lumière, la finale. Ce qui manque au langage, la blessure dans la langue, ce qui échappe à toute métrique, c'est l'autre du langage humain, le gêneur. C'est le non-sens par excellence, la rature de toutes nos raisons, le monde, dont le rythme est l'image, et sans cette image, le monde n'est que mutité. Octavio Paz est d'avis que, ouverture de la citation, « toutes les conceptions cosmologiques de l'homme portent l'intuition d'un rythme originel », fin de la citation. Je ne disputerai pas à propos de cet « originel », mais la sensation d'univers à laquelle Valérie attache un grand prix semble résulter du fait que nos sensations, même les plus élémentaires, nous unissent aux choses en même temps qu'elles nous en séparent. Nous avons conscience ainsi de ne pas être des choses et de nous représenter ces choses comme indétachables de l'image que nous nous en formons. Le monde nous reste à la fois humain et inhumain. Ces deux versants deviennent commensurables pour autant que mythe et rythme s'associent en un ensemble symbolique. Si le poème réfère à quoi que ce soit, c'est à cet univers imaginaire qui résulte d'une vision particulière du monde, indescriptible comme tel.
Maintenant, quelques extraits de « Moments fragiles » qui est, il faut bien le dire, le best-seller de la maison, qu'on réédite sans arrêt depuis 1983. Nous n'avons pas malheureusement comptabilisé le nombre d'exemplaires, mais on peut dire plusieurs milliers d'exemplaires, très certainement. Sur le tard, n'aimerais que la quiétude dans les yeux d'un vieillard boirait la source qui coule dessous une terre très rocheuse. À ma ceinture, se nouera un peu de pudeur, comme un aveugle qui chante le soleil. La fatigue laissera mes os tranquilles, une bonne lenteur dormira sous mes paupières. Quelle sera donc alors la fragilité de vivre en brouillard de mémoire, poussière de parole, avec une existence sans contour ni désir? Une chenille hirsute dans la mousse cherchera le chemin de l'immobile et me souviendrai, dans les fours on cuisait le pain des enfants, la farine et le sang. Des mots simples viendront et soyeux comme la bulotte pour dire l'horreur des hommes, les brisures du temps, les orbites creusées de crimes et les sales lessives de l'oubli. Comme un amour qui vient au néant, m'emplirai la poitrine d'un souffle naïf, descendrai de la montagne avec le froid, bruirai parmi les grillons frileux et par un lever d'étoiles hâtif, m'éloignerai de ma dernière blessure, m'allongerai couleuvre de soleil fraîchi, entre les herbes dures, laisserai sur ma bouche se poser la nuit, paix impénétrable. Voilà pour Moment fragile. Et dans L'artisan, On n'a pas évoqué la chose, mais une chose qui m'a frappé, peut-être comme dans l'œuvre de Fernand Dumont, c'est l'attachement au quartier, la mémoire de son origine, en quelque sorte. Alors, j'ai choisi Quartier libre. Le quartier m'est apparu minuscule, inhabité, seulement stupeur et souffle de vie, penchant qui s'écroule, sueur du temps, disparu. Le chant du merle, ce soir, fuit dans un silence obscur, peut-être celui du chat, dont les prunelles trop grandes s'emplissent de mon attente. Dans mon présommeil, je songe à ce qui rancit le cœur, mais le ramoneur noirci, fumant sur la cheminée, me sourit, puis je m'endors. Novembre. Le lac grisonne, un vol d'outarde là-haut, emporte le vent norrois, parmi des nuages d'ombre, soudain, joie de m'en aller. En mars, quand les rues fondantes marchent vers le lac, des signes noirs sur la glace, on dirait une écriture de cendre parle d'une voix brûlée. Le vieux fantôme égaré qui musardait dans le parc, on l'a chassé. Du balai, son âme meurtrie repose au secret de mon jardin. Les chercheurs de cimetière s'étonnent. Où sont vos morts? Vent, pluie, poussière et soleil nous chuchotent pêle-mêle, présence, absence. Où es-tu? Le carillon de l'église sonne un midi mécanique où tremble la canicule. Aux yeux des moribonds sèches, les larmes des choses tuent. On a vu l'aveugle né se mouvoir vers le ruisseau, des nymphes à sec, figures tombées en oubli, et rire à des rires invisibles. Le chant des grillons stridule pour le plaisir des poètes qui s'ignorent, et tant mieux quand face au soleil du soir, nous sommes tous des mendiants. La rue s'achève parfois contre une colline. Enfant de campagne et citadine, par jeu, elle nous invente l'énigme de vivre ensemble. Des fleurs, partout des fleurs. J'aime qu'à travers de faux ciels verts, les grands pissenlits se pointent, intuables malgré tout, portant haut l'étoile jaune. Déjà mort ou presque, il chante les voisins d'en face, à peine debout, l'œil clair, insouciant de l'heure et du jour, la nuit sans souffle, gisant, yeux clos. Ce n'est pas qu'un ange passe à l'aube entre les maisons closes, plutôt qu'un mortel apatride embrume l'air d'une ancienne mélopée. Quand me pèse la pensée, les jeux enfantins aussi m'éveillent, me retournant vers quelle rupture à vif, poème à faune, et toi, l'autre. Mutisme sans fond, douleur du monde, ma demeure, oui, même à l'abri d'un quartier où chaque instant cherche asile en de vieilles cicatrices.
Terminons donc cette lecture avec un extrait d'Il n'y a plus de chemin, le dernier texte prosaïque donc du recueil. Ce n'est plus le moment de gober les mouches. Le départ nous prend au corps, ça fourmille de partout le non-sens. Et allons-y à ce nulle part. Bon Dieu, je n'arrive plus à me lever. Où sont mes bottines, mon chapeau, mon sac? C'est vrai, il n'y a plus de chemin. Bof, on l'inventera. C'était une idée comme ça de continuer. Donnez-moi la main. Attendez-moi. Il n'y a vraiment personne. On imagine, On s'enroule dans une image, on s'invente une autre vie. Façon de mourir en douce, à petites secousses. Et merci pour cette bonne journée, qui disait. Et l'honneur est sauf, et au moins on ne s'est pas trahi. Et toujours l'horreur se lasse, qu'il disait encore et redisait. Maintenant, ça y est, je vais me mettre au trou avec la sombre vagabonde. Elle n'annonce rien et ne promet rien. Elle te tend et t'emmène à la mer. Tu reconnaîtras sans peine cet arrière-goût de vivre. J'espérais, malgré tout, disparaître en un petit chemin, avec un souffle de quelqu'un tout près, une vieille bonté comme au premier instant. Mon espérance ne meurt pas avec moi.
Merci Patrick Lafontaine, merci Paul Bélanger donc et Patrick Lafontaine d'avoir été les porte-paroles au sens fort du terme de la parole de Brault. Jacques Brault qui écrit, on l'a entendu, inventons donc le chemin. Alors vous avez chacun à votre manière inventé en tout cas un petit bout de chemin. Yvon Rivard, Frédéric Bernier, Stéphane Lépine et Louise Dupré, merci, merci de votre lecture, merci de votre attention et retournons à Brault. Merci.